RFI. Couleur, couleur.
Couleur tropicale, yeah. Allez, yo.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, le retour. Mathieu l'Américain. Hervé Mandina, Marion Lestel, bonne arrivée la famille et bonne semaine car jusqu'à vendredi, nous vous offrons le meilleur. Notez que jeudi, le grand live de Couleur Tropicale sera un spécial Guinée. Steve Wan, Azaya et Jupiter Davibe seront nos invités. Dans un instant, je vous parle de The Voice, Afrique francophone, le retour, troisième saison. Et c'est Foul qui nous y emmènera tout à l'heure. Pour l'instant, on l'écoute.
Mes amis me disent de la laisser tomber. Je la veux mais je ne l'ai pas encore touchée. Oh, il est temps d'acter le pas, temps d'embrayer. Pour cette course, il n'y a pas que moi, je pourrais la louper. Elle ne soupçonne pas la hauteur de son charme. Elle me fait envie, elle me fait envie. La personne qui va la gérer.
Style sur la radio mondiale. Fulbert pour ses parents. Ful est un des candidats de la deuxième saison de The Voice Afrique francophone. Toi-même, tu sais, il appartenait à la team Singila. Ful, alors Ful, comme on veut, comme vous le sentez. Ful vient de sortir son premier single, Elle n'a Dieu que pour toi, spéciale recommandation. Et c'est lui dans sa voix qui nous présentera cette chanson dans les semaines à venir. Vous le savez peut-être déjà, mais The Voice, Afrique francophone, revient. La super production musicale africaine revient en octobre prochain. Bravo à Roland Camonier, une super héros, une vraie. Pas comme le super héros noir, le Superman de Thomas Njijol. Hein.
Non, le seul truc qui m'a choqué récemment, c'est qu'il y a un quatrième film consacré à l'autre enfoiré de Superman, là. Et c'est bon quoi, il nous a saoulé ce mec sans déconner. Non sérieux, Superman ça s'est foutu de notre gueule. Ce mec là il sauve des petites vieilles, il éteint des immeubles en feu. Mais Superman quand il vole au-dessus de l'Afrique, il fait semblant de pas nous voir. Hein. Non mais sérieux. Non sérieux. Non c'est vrai. C'est pourtant en bas j'imagine, tu sais, il doit y avoir des populations en galère, ils doivent le voir Superman, tu sais, ils doivent être là. Eh, j'y ai fait. J'ai faim, oh. Hey, c'est Superman, Superman est là, Superman. Superman est là, hey, Superman est là, oh. Superman, hey, Superman, hey, Superman, hey, Superman. Hey, Superman. Bon, Superman, Superman. Bon, il faut venir nous amener à manger là, hein. Est-ce qu'il n'y a plus la nourriture? Superman. Mais il va où? Superman. Super, hey, mon cœur. Et ils peuvent gueuler comme ça jusqu'à la mort. Superman, il s'en bat les steaks. Culeve. Non, je déteste Superman. Je dis officiellement, je le déteste. En fait, j'aurais dû avoir deux Superman. Deux Superman. Un blanc. Pour vous, hein. Celui qui s'habille avec une cape, un petit collant bleu et un slip rouge par-dessus. C'est pathétique, votre Superman. Hein. Ah, sérieux, avec un blanc pour s'habiller comme ça. Parce que le deuxième Superman, justement, a été noir pour nous. Et je vous le dis tout de suite, lui, ça aurait été un sapeur. Hein. Ah, parce que les noirs, j'avoue, on a beau avoir beaucoup de défauts, mais on déconne pas avec le style. Non, mais... Ah, mais sérieux. Un noir, plus il est pauvre, plus il est stylé. Ah, d'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de gens stylés dans la salle ce soir. T'as du style, si c'est bien ça. Tu bouffes que du riz, mais t'as du style. Non, mais on est des escrocs, les noirs, moi je le dis, je vous jure. Oui, j'ai tous les RMI, mais j'ai du style, messieurs. Des fois, vous n'arrivez pas d'être dans les transports en commun et de voir des noirs super stylés, vous savez, en costard, 54 pièces. Pa, 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 pa. Quand vous les voyez, vous vous dites « Waouh ! Ça doit être le ministre de l'Intérieur de son pays, celui-là » Eh ben non, pas du tout, non. Ces gens-là, c'est des aérois. Non, mais sérieux, c'est des aérois. Et ce qu'il faut savoir, tu sais, ils sont avec leur costard, une mallette à la main, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, dans leur mallette de ministre, là, il y a un morceau de viande. Une canette de bière et le dernier album de Papa Wamba. Non, c'est pour ça que très honnêtement, quand je pense à Superman noir, je me dis que c'est une connerie, c'est vrai. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais un noir, dès qu'il a un peu de pouvoir, trop souvent, il pense qu'à sa gueule. Non, mais en même temps, c'est vrai, Superman noir va faire payer ses services, c'est évident. Bah oui, ça va être du genre « Superman, il y a une pauvre vieille femme coincée dans un immeuble en feu. Attends, fais-moi écho de ce que tu viens de colporter. Il y a une pauvre vieille, une pauvre. Eh, c'est pas possible. Bon, viens ici, venez ici tous même d'ailleurs. Bon, je vous dis et je vous répète que soit je suis Superman, soit vous m'avez élu à la majorité absolue. » Mais je vous rappelle que je suis noir. Et donc, par voie de conséquence, vous ne me manipulerez pas comme mon homologue blanc.
Où est l'argent? Je révise mon jugement. Oui, nous avons besoin de super-héros afro auxquels les jeunes afro, kémites, kamites, afro-caribéens, afro-européens, afro de l'océan Indien pourraient s'identifier. Wakanda! Le Superman noir, c'était Thomas Gijol. Nous vous recommandons son nouveau film, justement, Black Snake, la légende, du serpent noir. Un super-héros afro à la Thomas Gijol. Dans Couleur Tropicale, nos héros, vous le savez, sont souvent, même très souvent, pour ne pas dire exclusivement musicaux.
Messieurs, what? Chalet, this is cool.
Couleur Tropicale sur RFI, avec Claudicia.
Yo, salut, c'est Tausen, j'ai 21 ans, chanteur bruxellois d'origine marocaine, et voici encore extrait de mon premier EP, disponible le 22 mars sur toutes les plateformes de streaming.
Je me contredis beaucoup et c'est le cas de le dire, entre toi et la rue, moi je suis indécis. Les gars du Tchex m'ont conseillé de ne pas te suivre, mais te sortir de ma tête c'est devenu impossible. Non, tu es confiante et je vais pas prendre de risque, car tu ne sais pas où t'arrêter, tu n'as pas de limite. Je vais passer à autre chose quand je voudrais plus te séduire, car tu sais d'où je viens. Et tu sais ce que je vise, oh nanana. Ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas texté, mais je reçus le message, oh nanana. J'ai compris que ça n'allait pas, juste en regardant ton visage, oh nanana. Non, je t'aime pas, donc t'emballe pas, ne te fais pas d'histoire, oh nanana. J'ai compris que ça n'allait pas, juste en regardant ton visage. encore besoin d'un peu de temps. Encore, encore, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Je ne voulais pas te brusquer, je ne fais qu'être honnête. Tu es un délit que j'ai envie de commettre. Et pour te plaire, moi j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Tout ça c'est juste un accident, désolé y'a eu méprise. Je te donne beaucoup de love car je pense que tu le mérites. Mais toi tu m'en donnes pas du tout, et au fond moi ça me dégoûte. J'ai l'impression d'être le fautif à chaque fois que je t'écoute. Baby mama te gusta la gasolina, per te posso morire. Lo sai che sei carina, per te posso morire. T'inquiète pas, tu ne m'as pas texté, mais j'ai reçu le message. Oh nanana, j'ai compris que ça n'allait pas juste en regardant ton visage. Oh nanana, non je t'aime pas, donc t'emballe pas, ne te fais pas d'histoire. Oh nanana, j'ai compris que ça n'allait pas juste en regardant ton visage. Encore, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Je ne voulais pas te brusquer, je ne fais qu'être honnête. Tu es un délit que j'ai envie de commettre. Et pour te plaire, moi j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Oh nanana, tu ne m'as pas texté, mais j'ai reçu le message. J'ai compris que ça n'allait pas juste en regardant ton visage. Oh nanana, tu ne m'as pas texté, mais j'ai reçu le message. J'ai compris que ça n'allait pas juste en regardant ton visage. Encore, j'ai encore besoin d'un peu de temps.
Tansen, l'artiste, encore le titre. Tansen, l'artiste, encore le titre. Bon, deux fois c'est bien, ça suffit. En revanche, d'autres informations méritent d'être données. Par exemple, vous savez que nous sommes des férus d'histoire ici à Couleur Tropicale, au Congo et ailleurs. On a tendance à, tout doucement, hein, oublier la date de sa disparition. Il n'est plus, pour certains, que le nom d'une université créée, d'ailleurs, par lui, le 4 décembre 1970, par ordonnance. Souvent, on parle de lui parce qu'on cite son nom, parce que son université est en grève. Le 18 mars 1977, Marien Ngouabi est assassinée. Son pouvoir n'aura été que tentative de coup d'État contre lui. Marien Ngouabi, qui n'hésita pas à faire condamner à mort certains opposants putschistes. D'ailleurs, lorsque le 24 avril 1973, il fait pourchasser et tuer les maquisards du M22 retranchés dans la région de Ngoma Ntsetse, le peuple congolais n'acceptera pas, et même ses partisans, hein, n'accepteront pas que Marien Ngouabi fasse exhiber à Brazzaville les corps de Diawara, Ikoko et Bakekolo. Ce n'est pas dans la tradition bantoue. Tant de haine cristallisée sur Marien Ngouabi. Il sera assassiné donc le 18 mars 1977. Après 9 ans de pouvoir, il n'avait que 39 ans. Le Congo qu'il voulait prospère, pour lequel il avait entamé de grandes réformes, était en crise. Et toutes ces crises successives, et surtout politiques, amèneront à son assassinat.
Oula, 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 tropical.
Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute d'RT.
Bienvenue dans cette nouvelle édition, à la une de l'actualité.
La story de Richard Joffo.
Et si Facebook créait sa propre monnaie, le Facebook Coin? C'est ce qu'annonce tout récemment le New York Times. Pas nouveau, me direz-vous, le réseau chinois WeChat le fait déjà. 80% des internautes chinois y sont actifs et le réseau permet de tout faire. Outre toutes les fonctionnalités d'un Facebook doublé d'un WhatsApp, il permet de réserver un taxi, payer des factures petites ou grosses, faire ses courses quotidiennes, sauf que là, WeChat vous demande de renseigner votre carte bancaire. Facebook Coin aurait, selon la Tribune, le projet de procéder tout autrement. Il s'agirait de créer sa propre monnaie, une crypto-monnaie pour être plus précis. Sur le modèle du Bitcoin, la sulfureuse monnaie virtuelle souchée au blockchain, cette base de données universelle, inviolable et infalsifiable. Ce qui fait que WhatsApp ayant fusionné avec Messenger depuis février, appartenant tous deux à Facebook, pourrait offrir à ses utilisateurs d'envoyer des sous à leurs proches ou bien payer en ligne sur des boutiques internes au système Facebook. Cela permettrait au réseau social de créer un système économique indépendant des monnaies officielles, permettant de payer des services internes, s'émancipant ainsi des systèmes monétaires actuels. 2 milliards d'utilisateurs qui pourraient, pour tout un pan de l'économie numérique, échapper au contrôle du système monétaire international, indépendant du dollar ou de l'euro. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de l'économie ou des crypto-monnaies pour comprendre que cela constituerait une sorte de coup d'état financier, une révolution mondiale au moment où l'on pointe du doigt la toute-puissance des GAFAM. À moins que Facebook ne se borne à proposer un système interne rattaché aux monnaies locales, via une carte bancaire par exemple, et que tout ceci ne soit qu'un gros buzz. Mais si l'information se vérifie, en poussant le raisonnement plus loin, Facebook, s'il devait créer un système autonome, pourrait devenir une banque centrale. Alors là, danger. Car évidemment, ce serait...
C'était...
une toute autre story.
Richard Joffo.
Merci Richard Joffo. Génération consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale, c'est dans quelques minutes. Envoyez dès maintenant votre prénom et le sujet de votre choix. Et on vous rappelle immédiatement, notez notre numéro WhatsApp 00 33 6 37 42 62 24. 00 33 6 37 42 62 24.
Yeah, yeah, SNIPER dans la maison, Couleur Tropicale avec l'Odyssée Ariel. SNIPER, on t'a dit.
C'est Couleur Tropicale.
Et on est des graisses, on est sur Couleur Tropicale, c'est trop bien.
Messieurs.
Coucou la famille, c'est Chanel Akinda sur Couleur Tropicale avec Claudie Siard, c'est le feu, le feu, le feu.
Ouais, c'est ça. Allez, tout le monde sur la piste de la plus grande discothèque d'Afrique. Et DJ Finasozo est au platine. C'est lui qui, en direct de Bobo Dioulasso, va faire monter la pression dans la radio.
Vous savez que ce soir, c'est la discothèque.
Couleur tropicale.
Tous les samedis, petite balade avec mes copines. Je croise un gars qui me dit, demoiselle, est-ce que vous avez une minute? Je m'arrête, je suis présent. Mon souffrir, je taffe pas la présidente. Je viens fraîchement des États-Unis. Je lui réponds enchanté et il poursuit.
Oudake Oudalwa,
je vous aime.
Oudake Oudalwa,
de la peine.
Oudake Oudalwa,
je vous emmène. N'importe où vous irez, je vous dépose en même. J'ai du dollar.
des l'euro, du CFA, des entreprises, des actions, des villas. Si tu veux qu'il y avec moi, je ferai de toi une grande dame. Dans les walls, il est dans les walls. Oh, vous êtes dans les walls, il est dans les walls. Voilà les filles, on a essayé les lèvres.
DJ Fina Sozo était en direct de Bobo Dioulasso. DJ Fina Sozo vous a fait danser sur Garta Alliance pour Amour Négligé, Max Pop pour La Caverne, Crazy Missy avec Nanlewa, et puis à l'instant John Saiga et MN6 Only pour Dance Baby. Et la famille, honneur et respect à l'un des monstres de la soul et du rhythm and blues. Wow. Américain Wilson Pickett pour Land of Southern Dance, 1966. Wilson Pickett est né le 18 mars 1941 à Prattville, en Alabama, USA. Wilson Pickett est décédé le 19 janvier 2006. Il n'avait que 65 ans.
Coola, 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 tropical.
La libre antenne.
Téléphone pour toi. Hein.
33 6 37 42 62 24.
Avancez. Toujours avancez.
Jamais reculer. Sauf pour mieux sauter.
Ah. Ralph Bozart avec ce titre Bara. Le clip du titre sort ce mercredi. On en reparlera. Le coup de fil du soir dans un instant et un point de repère historique tout de suite. Le 18 mars 1889, le Tofa souverain de Porto Novo, fidèle allié des armées coloniales françaises d'ailleurs, est sur le pied de guerre. En effet, une brouille et des propos insultants échangés entre lui et Gbeanzin, le fils du roi Glélé, méritent réparation. Ce sera un massacre. Les Dahoméens du royaume d'Abomey sortent vainqueurs. Béanzin devient l'ennemi juré des Français. La suite, vous la connaissez. En ce jour, c'est justement à un Béninois que nous allons passer notre coup de fil du soir. Nous allons évoquer, d'ailleurs, Béanzin. À travers une exposition débutée fin 2018 en France, Béanzin, Panthéon de la Résistance. Ce sont également deux livres. Et pour en parler, Eustache à Gongpé. Bonne arrivée, Eustache.
Claudie, bonsoir, comment vas-tu ?
Écoute-moi, ça va, je suis très heureux parce que c'est un hasard du calendrier. On voulait, nous, te recevoir, que tu puisses nous parler de Gbeanzin. Et lorsque l'on a préparé cette émission, on s'est rendu compte eh bien, que ce jour-là, le 18 mars 1889, il y a donc eu cette brouille entre le royaume de Porto Novo et celui d'Abomey. Et c'est à ce moment-là, c'est l'un des épisodes glorieux pour Gbeanzin qui a montré sa puissance à la guerre et puis surtout aussi son opposition à l'armée coloniale française. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, lui n'est pas encore, ce n'est pas lui qui dirige le royaume d'Abomey.
Exactement.
Alors, je voudrais qu'on parle avec toi de ce que tu as engagé parce que c'est très important, important pour la culture. Mais je voudrais te poser cette première question qui me semble essentielle. Que représente aujourd'hui Béanzin auprès des jeunes béninois et des jeunes africains en général et de la diaspora aussi?
Merci Claudicia. Mais écoute, Béanzin est une grande figure de la résistance contre la colonisation française en Afrique en général, hein, au Bénin notamment. Donc Béanzin va dire non à la colonisation, va refuser de céder ses terres à la France pour beaucoup d'Africains aujourd'hui qui commencent à s'y réveiller. Béhanzé est une grande figure, un exemple, un modèle à suivre en fait pour l'unité africaine, pour pouvoir en fait retourner à l'identité culturelle africaine et puis l'identité traditionnelle de que l'Afrique avait.
Eustache, puis-je me permettre de dire que Béhanzé est également et avant tout un héros universel?
Exactement, exactement. On peut le dire ainsi parce que Béhanzé, son combat n'était pas que limité au Dahomey, donc l'actuelle République du Bénin, la partie sud de l'actuel Bénin. Mais c'est un grand personnage aujourd'hui, un grand roi à qui plusieurs hommages ont été rendus, plus de 100 articles ont été écrits sur Béhanzé, sur l'homme. Rihanna également va rendre hommage à Béhanzé dans une de ses chansons. Ça montre un peu l'ampleur internationale et puis mondiale de cette grande figure de la résistance africaine.
Eustache, je voudrais que tu nous parles et que tu nous présentes ces expositions itinérantes, parce qu'il y a eu Montpellier, Bordeaux, Marcigny, Ronchin, Chantilly, Paris. Parle-nous de cette exposition, Béhanzé, Panthéon de la Résistance.
Béhanzé, qui veut dire l'univers où le monde tient l'œuf que la terre désire, ça a été francisé. Béhanzé,
ouais.
Est une exposition de plusieurs tableaux qui ont été réalisés avec des matériaux naturels, donc la terre, du marc de café, du charbon de bois, du kaolin, des tissus, dans un style vraiment ancestral comme le faisaient les artistes de la Cour royale d'Abomey, qui retrace la vie de Béhanzé, donc depuis sa déportation, sa résistance, sa vie en Martinique, sa deuxième déportation en Algérie, sa mort en Algérie et le retour de sa dépouille à Guinée, au Bénin.
Alors,
ces tableaux-là.
Oui, les tableaux, c'est toi. Je précise quand même que les tableaux sont de toi.
Tout à fait. Ce sont des tableaux de moi. C'est un travail qui a pris presque 3 ans en atelier depuis 2017, qui était un projet grandiose, sur lequel on a travaillé à fond pour que ça puisse pour que ça puisse voir le jour, et puis après ça n'a pas couru toute la France.
Je précise, justement, si vous nous écoutez et que vous souhaitiez aller sur la toile, sur le net, découvrir ce travail d'Eustache Agongpé, juste vous dire que son nom d'artiste, de peintre, donc c'est S'Tache, T-A-C-H. Je voudrais que tu nous parles de... Il y a deux ouvrages également.
Il y a deux ouvrages, c'est que ce que je fais, Claudicia, c'est qu'à chaque exposition, en fait, j'écris un livre illustré qui reprend tous les tableaux et également en fait l'histoire qu'il y a derrière chaque tableau. Donc la deuxième exposition qui va suivre celle du roi Béhanzé, c'est le massacre de Tiaroy.
Ouais.
Le massacre de Tiaroy où plus de 300 tireurs sénégalais vont être tués par l'armée coloniale française et enterrés dans des fosses communes autour du camp de Tiaroy à 15 km de Dakar. Donc il y a eu un livre également qui a accompagné l'expo du roi Béhanzé, donc qui est intitulé Béhanzé, Panthéon africain de la résistance. Et le deuxième livre également sur les tirailleurs sénégalais, qui est intitulé Tirailleurs sénégalais et le massacre de Tiaroy. Donc on est sur cette expo des tirailleurs sénégalais également sur plusieurs tableaux, presque 19 tableaux, qui retracent également le rôle très important des tirailleurs sénégalais, donc la force noire,
ouais.
Ou des soldats indigènes.
Il me reste très peu de temps. Juste quand même rappeler que ces tirailleurs, ces soldats qui ont combattu pour libérer la France, c'est au moment où ils ont été démobilisés, où ils ont réclamé leur dû, c'est-à-dire leur solde, plutôt que de les payer, on les a tués, assassinés.
Voilà, non,
je voulais juste.
Ils n'étaient même pas encore démobilisés, Claudicia. Ils étaient des soldats non démobilisés.
Eh bien oui, puisqu'ils étaient encore dans les casernes à ce moment-là.
Exactement.
Effectivement, ils n'étaient pas encore démobilisés, mais ils n'étaient plus en Europe, ils étaient déjà rentré donc au Sénégal, au camp de Tiaroy. Je voudrais juste revenir sur Béhanzé, parce que c'est lui qui nous réunit. Juste dire quand même que le film Black Panther fait un clin d'œil au royaume d'Abomey et quelque part
exactement.
À Béhanzé, à travers les femmes aux crânes rasés, ces guerrières, ces Amazones.
Amazon,
oui. Bon, c'est important de le dire parce que...
À qui j'ai rendu également hommage dans cette exposition à travers la reine Safi Angbé, qui est d'ailleurs la seule femme qui a rien sur le trône du Dahomey, qui a été fait de l'histoire des rois du Dahomey.
Bon, très vite, Eustache, si on veut en savoir plus sur Internet, y a-t-il une adresse, quelque chose où on peut te retrouver un site?
Je suis très tactile sur ma page que tu viens de donner, donc Eustache, S'TACH.
Bon, bravo infiniment parce que tu lis l'art à l'histoire et notre identité, c'est la culture. Merci infiniment, Eustache.
Merci de m'avoir reçu. À très bientôt.
Désolé, vous n'avez plus d'unité.
C'est vraiment important que vous alliez voir, admirer, apprécier le travail d'Eustache à Gongpé. Je vous redonne donc, il suffit juste d'aller sur la toile, vous faites S'TACH ou tout attaché, vous trouverez et vous aimerez, j'en suis persuadé. C'est ça la génération consciente.
Couleur tropicale.
CNN. Fake.
A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are.
You call women you don't like. Pigs,
it's fake.
Dogs, slobs.
That was false and fake.
And disgusting animals.
Oh, I'm sorry about that. Pocahontas, so what'd you say?
Couleur tropicale.
C'est le moment de retrouver les auditeurs leaders. Sylvestre à Dakar, bonne arrivée.
Bonjour.
Ah, bonsoir, Ike. Alors, je dis Ike, je le dis à l'américaine, mais peut-être qu'il ne faut pas prononcer. Il faut dire, donc, comme sur notre continent, Ike Mayunga, bonne arrivée.
Merci.
Je dis.
Bonsoir, monsieur.
Bon. Monsieur, ok, monsieur Ike, d'accord. C'est pas Ike, c'est Jacques qui a dit. Jacques, bonne arrivée.
Allô. Oui. Bonjour, Claudie.
Oui, comment ça va?
Je rends grâce à Dieu. Ici, bon. À Mayotte, on dit Alhamdoulilah.
Bon, exactement. Jacques, à Mayotte ou à Saint-Denis de la Réunion?
Présentement, je suis à l'île de la Réunion.
D'accord.
À Saint-Denis, là, aussi.
D'accord. Je vous dis à tous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Kofi Olomide, vous savez, depuis quelques années, il avait des histoires au tribunal. Et Kofi Olomide a été donc condamné à 2 ans de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'il n'ira pas en prison et qu'il peut revenir en Europe. Étiez-vous au courant tous ?
Oui.
Bon, vous êtes tous au courant, d'accord. Sylvestre, on va commencer avec toi. Tu es un Togolais, tu résides à Dakar et tu souhaites travailler. Et pas dans n'importe quel domaine, puisque tu souhaites travailler dans l'univers de la blanchisserie, c'est ça ?
Oui, dans la blanchisserie.
Et donc, tu te sers de la libre antenne Génération Consciente, donc de couleur tropicale, pour passer, c'est presque une offre, une demande d'emploi. Hein.
Oui, demande d'emploi, et bon, c'est tout, la création, quoi. Moi-même, je voulais créer bon, la blanchisserie.
Oui.
Et avoir mon plan, quoi, pour avoir... je ne sais quoi dire.
Mais Sylvestre, donc, attends. Tu cherches à intégrer une blanchisserie, repassage, lavage, enfin tout ça, parce que tu en as le talent, c'est ce que tu as dit à Hervé. Tu as dit, moi, je suis un boss, je suis le meilleur, il n'y a pas mieux que moi. Ou est-ce que tu souhaites rencontrer des personnes qui ont les moyens de financer une blanchisserie et tu ferais de ce lieu la plus courue, la plus prisée des blanchisseries de Dakar?
Oui, bientôt je suis à Mermoz.
Ouais.
Donc, je voulais rencontrer des gens pour créer la blanchisserie, pour mieux servir les gens. Donc, je suis là, je suis prêt à faire tout.
Tu es prêt?
Oui, je suis très prêt.
Donc, d'accord. Donc, à ce moment-là, il faudrait, si certains nous écoutent, et qui souhaitent créer une blanchisserie, parce qu'on a toujours besoin, justement, alors on appelle ça aussi des pressings, hein. On a toujours besoin de blanchisserie, parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent faire laver, leur repasser, leur vêtement, qui n'aiment pas ça, et on a toujours besoin de très bons professionnels. Est-ce que sur la page Facebook de Couleur Tropicale, est-ce que tu nous permets de mettre tes coordonnées pour celles et ceux qui voudraient te contacter ?
Oui, oui.
Bon, bah c'est fait. C'est fait.
Oui.
Bon, Sylvestre, merci. Bonne chance à toi.
Merci aussi. Oui.
Bonne
merci.
Chance, Sylvestre.
Et bye.
Ike,
oui.
Tu voulais nous présenter un projet, et cela par le biais d'une cagnotte. Alors, on peut donner le nom, hein, c'est la cagnotte Letchi. Pour la rénovation des écoles primaires de Matongé. Nous t'écoutons.
Donc, je me présente Ike Tokomayunga. Je suis président de l'association des Banamatongais indépendants. Donc, je présente ce projet. Ce projet me tient à cœur puisque je suis reparti chez moi en 2015 où j'ai fait un don d'un cahier, un crayon pour chaque élève de l'armée du salut à Matongé.
Ouais.
Donc, ça fait déjà 5 ans. Et c'est vrai qu'en revenant ici, j'ai sollicité mes compatriotes, mes adhérents, enfin, les membres de l'asso, quoi. pour leur dire, écoutez, il y a des trucs à faire au pays, il y a les écoles. On a demandé un peu au directeur, on a eu pas mal de demandes. Il faut acheter des pupitres, il faut acheter des tableaux noirs, il faut acheter un peu de fournitures scolaires, ensuite des PC, enfin tout, comme ici en France, hein, en gros. Hein.
Ouais.
Donc, c'est pour cela que je me suis dit, écoutez, là, le 29 de ce mois, on aura 5 ans, l'assaut aura 5 ans. Et pour ça, je demande à tout natif de Matongé qui m'écoute, la diaspora, à tout Africain, à tout Congolais, s'il peut ne fût-ce que glisser ne fût-ce qu'un petit billet, pour qu'on puisse l'année prochaine faire, essayer de réhabiliter les trois écoles primaires en même temps, c'est-à-dire prendre des pupitres et puis des bancs, et puis après tout ce qu'on pourra faire. En gros, c'est ça. Donc je tiens vraiment... C'est un projet qui me tient à cœur.
C'est un projet extraordinaire, parce que lorsque je dis que vous êtes tous des leaders et que vous n'avez pas besoin de gourous, vous n'avez pas besoin que d'autres vous disent ce que vous avez à faire et ce qu'il faut faire pour l'émancipation du continent, pour construire le continent, plutôt que de continuer à jeter l'opprobre ou à envoyer des flèches de haine sur les autres, juste dire qu'on a l'amour de l'Afrique et qu'on va construire nous-mêmes notre continent. Alors, je voudrais que tu te répètes à nouveau, Ike, cette cagnotte Letchi pour donc la rénovation des écoles primaires de Matongé. Comment peut-on faire pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, comment fait-on pour faire un don? Est-ce que tu peux expliquer?
Il faut juste se connecter en fin de compte, ou alors vous venez sur notre page Facebook, Bana Matongé des Trois.
Ouais.
Donc on a l'annonce qui est dessus, ou sinon vous allez carrément sur le site letchi.com, vous tapez Bana Matongé des Trois, la canette sortira. Hein.
Ouais.
Donc là après, bon, chacun donne ce qu'il veut, il peut se signaler ou ne pas donner son nom, enfin peu importe.
Ouais.
Donc, voilà.
Ike, peux-tu répéter de façon plus lente, parce qu'à chaque fois que tu donnes le nom du projet, tu vas très vite.
Ah d'accord, excusez-moi. Bon, pour essayer de nous aider pour ces dons, c'est-à-dire on peut se connecter directement sur letchi.com.
Oui.
Et taper Bana Yamatongue 1, 2, 3.
Bana, comme le peuple, c'est ça?
Bana, donc B-A-N-A.
Enfant, pardon, oui.
Enfant, Y-A, Matongé, 1, 2, 3.
Voilà, super.
Alors, sinon, vous venez directement sur notre page Facebook, toujours Banaya Matongé, 1, 2, 3. Voilà.
Et puis voilà, c'est cool, Ike, on a bien compris. On met également toutes les informations sur le Facebook de Couleur Tropicale.
Ok, merci bien à vous. Hein.
On est ensemble, bravo, respect. Jacques Chibozo, à Saint-Denis de la Réunion, Mahorais, quoi qu'il arrive, d'adoption. Tu connais une situation extrêmement grave et tu souhaitais nous en parler. Tu es avocat.
Absolument.
Nous t'écoutons.
Très bien. Alors, merci beaucoup, Claudia. Je suis Jacques Chibozo. Je suis béninois, j'ai 42 ans. Je suis avocat au barreau de Mayotte. Et avant de venir à Mayotte, j'étais avocat au barreau de Bordeaux. Je précise vite fait que j'ai prêté serment le 2 avril 2002 à Montpellier. Et puis après, donc, de pérégrination en pérégrination, j'ai fini par trouver ma place au barreau de Mayotte, que j'ai rejoint en 2010. Et puis juste 2 ans, à peine plus tard, j'ai ouvert 4 cabinets.
Ouais.
Donc, je peux dire, si je dois faire une sorte de rétrospective ou de mea culpa, je dirais que la première erreur vient de là, déjà. Voilà. Parce que lorsque vous êtes 32 confrères, parce qu'on est 32 confrères barreau de Mayotte, que certains n'ont même pas un cabinet, et que vous n'êtes même pas originaire du Sérail, et que vous vous permettez la fronde d'ouvrir 4 cabinets, d'intervenir tous les lundis, tous les premiers lundis du mois à la radio et tous les jeudis sur la chaîne Mayotte Première, hein, la première chaîne que vous achetez une voiture toute neuve, votre appartement et tout ça, que vous recrutez des collaborateurs français, etc. Vous comprenez que très facilement, ça puisse créer des frictions, voilà, créer de la jalousie.
Alors, qu'est-ce que cette jalousie a engendré?
Très bien. Cette jalousie va entraîner tout simplement la mise en place d'un complot. Et là, ce que je dis n'est pas subjectif, parce que quand j'ai dit j'en ai dit tout ça, bon, on peut dire que c'est subjectif. Par contre, ce que je vais dire maintenant n'est pas subjectif, c'est absolument objectif, puisque avant même le déclenchement de ce complot, qui va me conduire en détention, hein, donc, avant même donc ce déclenchement, il y a une de mes anciennes salariées, et c'est au dossier de la procédure pénale, il y a une de mes anciennes salariées qui a tout mis en œuvre pour m'avertir de ce qu'il y avait un complot en préparation contre moi, mais je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru dans la mesure où je ne me reprochais rien et que bon, ben, j'avais absolument ma conscience pour moi. Je me suis dit, complot par rapport à quoi? Alors elle-même, elle n'est pas vraiment entrée dans les détails, peut-être parce qu'elle craignait de me choquer, vu qu'en en réalité, ce complot serait lié au fait que j'aurais entretenu une liaison avec une autre de mes secrétaires, ce qui n'est absolument pas interdit par le droit pénal.
Oui.
À la limite, qu'on veuille me le reprocher sur le plan déontologique, très bien. Et d'ailleurs, à cet égard, je le dis tout de suite, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en audience disciplinaire, m'a condamné à une interdiction des essais pendant 18 mois. Ça, c'est du disciplinaire, parce qu'on a estimé que l'avocat que je suis n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec sa secrétaire. Bon, nous sommes sur des préceptes moraux, ça vaut ce que ça vaut, mais la discussion à ce jour n'est plus d'actualité. En revanche, à partir de là, donc un complot a pu se mettre en place, et là, on m'a accusé de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. On a aggloméré quelques anciennes secrétaires, j'imagine peut-être même qu'on les a payés, j'en sais rien, pour monter cette affaire de toute pièce contre moi, le but étant clairement de détruire ma vie. Voilà en quelques mots introductifs comment cette affaire peut se présenter.
Jacques, aujourd'hui, face à la justice, parce que de telles accusations sont extrêmement grave. Tu expliques donc à la justice que c'est un plan machiavélique ourdi contre toi et que tout cela est né de la jalousie et face à ta prospérité, eh bien certains ne savent comment réagir. Où en es-tu aujourd'hui, toi, professionnellement et judiciairement ?
Très bien. Alors, professionnellement et judiciairement, je suis tout au fond de mon abîme. Il faut savoir que c'est le 25 juin 2013 que j'ai été arrêté à Mamoudzou, placé en garde à vue, donc 48 heures, hospitalisé pour une semaine, déféré après devant le juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion, le 2 juillet 2013, qui m'a mis en examen, qui m'a placé en détention provisoire. J'ai été remis en liberté le 12 novembre 2013. Aussitôt en liberté, j'ai donné une interview à la radio. Ce n'est pas la peine que je donne le nom de la chaîne en question, de Mayotte. Mmh. Et aussitôt cette interview donnée, le juge d'instruction me remet en détention. Et alors là, c'est quand nous sommes en France, pays des libertés. Il n'y a absolument rien qui m'interdise, moi, de parler à la radio, parce que je ne suis pas assujetti au secret de l'instruction.
Oui, bien sûr.
Parce que je ne participe pas à l'instruction. Les magistrats, oui, mais moi, dans la procédure, j'étais le mis en examen. Donc la personne poursuivie, et au même titre que les parties civiles, a absolument le droit de s'exprimer. Moi, je m'exprime à la radio, j'écris mon innocence, on me remet en détention, au motif que j'aurais cherché à déstabiliser les parties civiles. Très bien, l'instruction criminelle, parce que n'oubliez pas que c'est une instruction criminelle pour des faits de viol, va se mettre en route, elle va durer plus de 2 ans, et au bout de 2 ans, le juge d'instruction va me renvoyer devant la cour d'assises. Je précise vite fait comme ça, mais si vous souhaitez, on va y revenir en détail. Pendant les 2 années que cette instruction a duré, le juge d'instruction ne m'a auditionné lui et moi, comme ça, qu'une et une seule fois.
Tu étais incarcéré à ce moment-là. C'était donc durant l'incarcération.
Oui, alors j'ai été en détention jusqu'en novembre,
ouais.
Remis en liberté, puis retourné en prison.
Voilà, c'est exactement.
Voilà, Haute Liberté après en janvier 2014.
Jacques, je sais, on ne va pas
après,
malheureusement.
Oui.
Alors, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui voudraient s'exprimer. Juste aujourd'hui, tu es en liberté.
Oui.
Où en es-tu? Oui. Où en es-tu concrètement?
Ça fait 6 ans que je ne travaille pas.
Oh là là.
Ça fait 6 ans à ce jour que je ne travaille pas, que ma vie est ruinée. J'ai porté le bracelet électronique au pied, à la cheville pendant 12 mois. Tous mes quatre cabinets ont été fermés. Je suis par ailleurs avocat au barreau du Québec au Canada, que je ne peux pas rejoindre, surtout au moment où j'ai les enfants, parce que tant que la procédure ici n'est pas terminée, je ne peux pas me rendre au Canada. Et je ne vis de rien. Voilà. Donc, si nous avions le temps, je rentrerais un peu dans les détails pour montrer le caractère inique de la procédure.
Mais moi, j'aimerais bien que tu reviennes pour nous parler à nouveau de tout ça. D'accord ?
Ça vous ferait plaisir, parce qu'il y a quand même un côté discriminatoire, voilà, par rapport à mon extrémité. Et je peux le démontrer.
Ouais.
Voilà, avec des éléments concrets, je peux le démontrer.
Bon. Merci infiniment. Merci infiniment, Jacques, et puis de t'être livré comme cela. Et on garde le contact parce qu'on aimerait beaucoup que nous allions, que tu puisses aller beaucoup plus loin. Parce que c'est vrai que parfois, la justice à qui on fait confiance dysfonctionne souvent et se fait berner par quelques complots. Je voudrais qu'on retrouve Divo tout de suite. Divo en Côte d'Ivoire avec Quadio, qui a souhaité un droit de réponse suite aux propos d'une personne du corps enseignant également et qui a évoqué la grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Quadio, nous t'écoutons.
Bonsoir Claudie.
Bonsoir Quadio.
Le 11 mars, au cours de votre émission,
ouais.
Il y a un auditeur qui a appelé. Voilà, c'est un parent d'élève.
Mmh.
Et il a dit qu'il ne comprenait pas la grève des enseignants. Je voudrais ici prendre la parole en tant qu'enseignant, mais pas en tant que porte-parole d'un syndicat. J'ai trouvé que cet auditeur n'a pas eu une lecture objective de nos points de revendication.
Il a dit d'ailleurs qu'il avait lui-même été enseignant mais auparavant, mais qu'il ne l'était plus. Alors nous t'écoutons. Il reste très peu de temps, donc je te laisse être concis.
Ok. Concernant le premier point, l'indemnité de logement, en Côte d'Ivoire, depuis 1980, les enseignants ne sont plus logés par l'État. C'est pourquoi depuis 2007, l'État a donné 40 000 francs comme indemnité de logement aux instituteurs.
D'accord.
Et depuis lors, le coût du loyer a augmenté, a doublé, voire triplé. C'est pourquoi, depuis l'année passée, l'État a décidé d'augmenter les baux dans l'armée et au ministère de l'Intérieur. Donc nous avons estimé qu'il est normal que l'État augmente notre indemnité de logement.
D'accord. Voilà.
Concernant le deuxième point, c'est le coût de mes crédits. En 2016, l'État a institué les coûts de mes crédits. Pour l'État, il s'agissait d'augmenter le quantum horaire. Mais quand les syndicats ont fait le calcul, c'est avéré que l'État n'a augmenté le quantum horaire que de 2 heures.
D'accord.
Je pense qu'il est très simple.
Dernier point. Oui.
Voilà, il est très simple de dire que le mercredi, c'est un jour de repos pour les enfants, un jour de repos pour les enseignants, un jour de préparation pédagogique pour les enseignants, pour faire leur
course. Quadio, si tu veux terminer tes autres points, il va falloir que tu reviennes demain. Faut que tu reviennes demain, d'accord? Tu reviens demain. Moussa Doumbia à Bamako, tu reviens demain également avec nous puisque tu ne t'es pas exprimé. D'accord, Moussa?
Ouais, je vous entends.
Ok, à demain. Ouais, c'est ça. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. C'est qu'il y a de l'espoir.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.